Radio Okapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Bonjour. Le panel des experts de la société civile plaide pour la démission, à défaut la déchéance du Premier ministre Bruno Tshibala. Il reproche entre autres les bagarres et la mauvaise gestion, mais cette démarche est jugée inconcevable par le cabinet Tshibala. Dans l'actualité aussi, le lancement hier d'Ensemble pour le changement, un nouveau mouvement de soutien à la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle. Dans ce journal, l'ancien gouverneur du Katanga nous donne quelques éléments de son programme pour le pays. Le dossier nous conduira à Ouvira. Fiston Goma nous parlera de la sensibilisation de militaires de la force navale sur la lutte contre l'insécurité et les violences faites aux femmes. Le panel des experts de la société civile exige la démission du Premier ministre Bruno Tshibala pour préserver, selon cette organisation, l'image et la dignité de la République. Son coordonnateur, Dieudonné Mouchagaloussa, reproche à Bruno Tshibala le népotisme, les bagarres, la mégestion et l'incompétence. Il a dit hier à Kinshasa dans une déclaration à la presse. Il exhorte le rassemblement proposé au chef de l'État un autre candidat Premier ministre. Dieudonné Mouchagaloussa, dans cet extrait sélectionné par Paul Matindo.
Nous avons appris avec amertume en ce mois de mars, mois dédié à la femme, des événements malheureux qui se sont succédés à la primature depuis la prise de fonction de l'actuel Premier ministre. Souscrivant à l'opinion publique nationale, nous exigeons immédiatement la démission de M. Bruno Tshibala pour préserver la dignité et l'image de la République. À défaut de sa démission, nous exhortons au Parlement sa déchéance dès l'entrée en session du 15 mars 2018 et que cette question fasse l'objet d'un traitement en mode d'urgence et qu'elle soit inscrite en premier lieu dans le calendrier de cette dernière. Conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, demandons tout affaire cessante aux parties prenantes en général et à l'opposition en particulier de proposer au chef de l'État un nouveau candidat Premier ministre qui permettra au pays de cheminer vers des élections libre et transparente.
En réaction, le conseiller principal en charge du collège diplomatie et coopération à la primature, répond que demander la démission du Premier ministre est inconcevable. Jean-Paul Paul Matindo, Alfred Ndinga, estime que le gouvernement Tshibala a reçu une mission qu'il exécute valablement. On l'écoute.
Et vous allez demander la démission de M. Tshibala. À base de quels critères? C'est inconcevable. Il a été confié au gouvernement de Tshibala certaines missions. Et aujourd'hui, l'opinion sait que grâce au gouvernement Tshibala, la paix est retrouvée dans les grands Kassaïs, qui a permis que les amis ou les Kassaïs puissent s'enrôler massivement. Et aujourd'hui, le financement des élections, il faut interroger le ministère des Finances ou d'autres, même la CENI. La CENI vous dira que l'enveloppe est passée de 20 millions à près de 50 millions par mois. Ce sont des réalisations incontestables.
Notez que cet appel à la démission de Bruno Tshibala da Primature s'ajoute à celui du rassemblement El Kassavubu, présidé par Joseph Olingankoy. Les composantes et partis politiques membres de ce regroupement estiment que Bruno Tshibala a trahi et déshonoré la vision de cette famille politique. Clôture hier à Johannesburg, en Afrique du Sud, du conclave de mouvements et partis politiques qui soutiennent la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle. Les participants ont décidé de la mise sur pied d'un mouvement dénommé Ensemble pour le changement. Et sans surprise, c'est Moïse Katumbi qui a été désigné comme porte-étendard de ce mouvement. L'ex-gouverneur du Katanga a ainsi présenté son programme en tant que candidat à la magistrature suprême. Il s'engage par exemple, s'il est élu, à créer 3,5 millions d'emplois et mobiliser 100 milliards de dollars américains pour relancer la RDC. Propose un extrait de son serment tiré sur le site officiel du mouvement Ensemble pour le changement.
Il n'y a pas de fatalité à la situation actuelle. Avec la volonté, avec des idées, avec le sens de responsabilité, un autre Congo est possible. Un Congo en paix, un Congo stable et prospère. Un Congo qui offre à ses enfants de quoi vivre dignement. Le Congo, mes chers concitoyens, est un grand pays. Le Congo est un pays riche. Son potentiel est immense. Nous avons tout pour devenir une grande nation. En Afrique et même au-delà. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un leadership capable, d'un leadership honnête, d'un leadership responsable, d'un leadership qui est là pour vous servir. Le temps n'est plus aux prédateurs, il est aux bâtisseurs. Je suis un homme qui bâtit. Je vais être un leader qui tire vers le haut son peuple. J'en ai la capacité. J'en ai la volonté. Il ne s'agit pas d'une ambition individuelle. La vie m'a déjà beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que professionnel. Cette réussite, je veux qu'elle soit collective, qu'elle soit désormais celle de chaque Congolaise, de chaque Congolais. La souffrance doit faire place à l'espérance.
Moïse Katumbi, candidat président de la République. La communauté ivoirienne de Kinshasa, CIK, estime que la mauvaise gouvernance politique, économique et de développement du gouverneur de l'Ituri, Abdallah Penimbaka, est l'une des causes de la résurgence du conflit dans cette partie du pays. Dans une déclaration hier à la presse, les notables ituriens recommandent que les autorités politico-administratives, judiciaires, militaires et policières de cette province soient relevées de leurs fonctions pour avoir failli. Évoquant l'aspect humanitaire du conflit qui sévit depuis 3 mois, à Djougou, son président indique qu'il a accentué la souffrance des milliers de personnes déplacées qui vivent sans assistance puisque, ajoute-t-il, les humanitaires sont surtout concentrés dans la ville de Bounia. Félix Kabouizi, au micro de Paul Matindo.
Nous avons relevé le fait que jusque-là, l'assistance se limite uniquement à la ville de Bounia et ses environs, alors qu'il y a plusieurs milliers d'autres déplacés dans le territoire de Djougou et Amagi qui n'ont pas encore reçu l'assistance humanitaire. Donc nous appelons aux ONG, aux églises, aux hommes de bonne volonté pour que chacun, s'il est touché par ce message-là, qu'il apporte l'assistance et que cette assistance-là soit convoyée directement dans la zone de Djougou. Nous exhortons l'État congolais une fois de plus à rechercher les criminels, à les traduire en justice et à sécuriser le territoire de Djougou. Nous avons également relayé la position adoptée par le caucus des députés de l'Ituri avec l'ensemble des notables et des forces vives de l'Ituri selon lesquelles on devait relever urgentement de ses fonctions le gouverneur de l'Ituri dont le leadership est insuffisant, mais également un certain nombre de responsables publics dont on n'a pas vu l'efficacité par rapport à ce conflit.
Parlons à présent de ce message du collectif des églises chrétiennes qui appelle tous les Congolais à la paix. Ce message a été lancé samedi au cours d'une rencontre qui a réuni plus de 300 pasteurs à Kinshasa. Ces hommes de Dieu demandent au gouvernement de doter la CENI de tout le moyen pour lui permettre d'organiser les élections en décembre 2018 telles que prévues dans son calendrier électoral. L'évêque Edmond Kumba, l'un des organisateurs, explique le sens de leur démarche au micro d'Alain Irung.
Vu le climat actuel, parce que nous déplorons déjà des morts, nous, étant que des hommes de Dieu, nous avons jugé utile que nous puissions un peu sortir de notre silence pour appeler les uns aux autres à l'apaisement et aussi interpeller le gouvernement afin de disposer de tous les moyens, de doter la CENI de tous les moyens pour l'organisation des élections. Et nous voulons appeler tout le peuple congolais à l'apaisement et d'attendre les élections qui seront certainement organisées. Nous avons besoin de la paix, c'est ça même notre mission régalienne. Christ nous a laissé la paix, nous donne la paix et nous sommes dans l'obligation d'implorer et de demander qu'il y ait la paix dans notre pays. Voilà le seul message dont nous avons besoin maintenant. Nous n'avons pas besoin que les gens meurent, nous n'avons pas besoin que les balles crépitent de gauche à droite, nous n'avons pas besoin qu'il y ait un soulèvement populaire. Nous avons besoin de la paix.
Le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS tient à faire de la justice congolaise une affaire de tous. Il a entamé hier à Kinshasa une série de rencontres dénommées Journée sociale. Durant 3 jours, le CEPAS a mené des réflexions avec les différentes couches sociales et politiques de manière à faire participer le citoyen à l'amélioration de la justice. Le premier jour a été consacré au thème « Comment l'Église et l'État doivent collaborer pour la promotion de la justice », une matière qu'a développée le cardinal Monsengo. Le père Emmanuel Bouya, chargé d'animation sociopolitique, politique à CEPAS explique ici la quintessence de ces journées sociales. Il est au micro d'Ascensibateur.
Cette année, nous avons choisi la justice comme étant un problème. Lorsque quelqu'un regarde notre société congolaise, il se rend compte que la justice pose un problème, non seulement sur le plan pénal, mais aussi sur le plan de l'organisation des relations entre les citoyens et l'État, aussi dans le jugement et qui sont faits aux citoyens. Bref, les citoyens se sentent quelque part abandonnés face à la justice. C'est pourquoi on s'est dit qu'il faut réfléchir pour que, non seulement penser à la réforme de la justice, mais aussi engager les citoyens pour qu'ils soient partie prenante dans cette réforme. Il est très important que la justice, qui est une affaire aussi importante, ne soit pas laissée seulement entre les mains de l'État, mais que chaque citoyen puisse participer à sa promotion, parce qu'une société qui n'est pas juste restera constamment instable. Et donc, au cours de ces journées, nous allons réfléchir sur, non pas pour se plaindre que voilà, ça ne va pas, que les jugements sont tout à fait biaisés, qu'il y a l'impunité, qu'il y a la corruption. Non, nous connaissons tous ces problèmes-là. En d'autres termes, il s'agit de voir comment les gouvernants et les gouvernés peuvent, la main dans la main, travailler des conseils pour que, effectivement, cette justice soit effective. Justice à comprendre comme institution, mais en même temps aussi comme vertu pour les citoyens.
L'Organisation mondiale de la santé a ouvert hier à Kinshasa un atelier de 5 jours devant consister à l'évaluation conjointe externe du règlement sanitaire international. L'objectif de cet atelier est d'examiner le progrès réalisé par la RDC dans la mise en œuvre de ce règlement et de renforcer les capacités du pays en vue de prévenir des épidémies et autres maladies émergentes. Jean-Pierre Ilali Koko.
À l'ouverture de travaux, les représentants résidents de l'OMS en RDC, le docteur Alarangar Yakoudé, a fait savoir que l'OMS dispose d'un puissant instrument de coopération qui permet de faire face à tout événement qui constitue une menace de santé pour la population. Cet instrument, c'est le règlement sanitaire international, un arsenal de mesures de sécurité sanitaire mis en place en 2005 et recommandé par l'OMS aux États dans le cadre de la prévention et de la riposte aux épidémies. Répondant aux exigences de ce texte international, le ministre de la Santé a indiqué que plusieurs initiatives étaient en cours pour mettre en œuvre ce règlement sanitaire international. Le docteur Ilunga a cité par exemple la dynamique lancée pour obtenir la création d'une agence congolaise de prévention et de contrôle des maladies. Il donne ici l'objectif attendu de cette évaluation.
L'évaluation externe conjointe qui commence ce jour s'inscrit dans le cadre d'un processus volontaire et multisectoriel qui va nous permettre d'élaborer un plan stratégique de renforcement des capacités du pays pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international.
Un plan très attendu pour servir de gouvernail dans la politique de prévention, voire d'éradication des maladies épidémiques et émergentes.
À Kisangani, le consortium des ONG pour la protection de l'enfant et de la femme, COPEF, a présenté officiellement hier les résultats du diagnostic communautaire sur la maternité à moindre risque des grossesses et quelques maladies de l'enfance. Selon les organisateurs, ces résultats entrent dans le cadre de l'exécution du projet Mère et Enfant en Santé financé par Oxfam, projet visant la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile dans les zones de santé de Bafassinde, Chopo et Wanyerukula. La cérémonie s'est déroulée au centre d'accueil Rwenzori sous la présidence de la ministre provinciale de la Santé en présence de plusieurs partenaires. Benjamin Makundo, coordonnateur du projet Marie-Enfant en Santé du COPEF, parle de quelques résultats au micro d'André Kitenge.
Les résultats qu'on peut dire par rapport à la problématique des maternités sans risque, premièrement, les services de consultation prénatale existent, mais l'utilisation pose problème pour multiples raisons. C'est-à-dire les femmes ne savent pas combien de CPN une femme doit avoir, et les femmes ne connaissent pas les contenus de la consultation prénatale, et au niveau du post-accouchement, les femmes ou les hommes ne savent pas qu'il faut une consultation après l'accouchement pour s'assurer de la situation de la femme qui vient d'accoucher, non seulement de la femme, mais aussi de l'enfant qui vient de naître. Il y a une suite de consultations qu'il faut avoir. Et nous avons aussi constaté qu'il y a des hommes qui accompagnent leurs femmes au niveau de ces peines rien qu'avec des paroles. Mais demander à un homme d'aller personnellement se rendre compte de la situation de son enfant qui est dans le ventre, souvent les hommes n'y vont pas. Et parce que l'enquête consistait à voir les perceptions, les attitudes et les pratiques, dans la pratique de ce comportement, on est allé à comprendre que certains hommes disent comme ils ne portent pas la grossesse, donc ils ne voient pas pourquoi ils peuvent accompagner leurs femmes au niveau de la consultation prénatale.
L'enquête a été menée entre juin et juillet 2017. Ce 13 mars, cela fait exactement un mois que le corps de la petite Noëlla Tchiefou, âgée de 8 ans, traîne à la morgue de l'hôpital Moncolé, ici à Kinshasa. Elle a été tamponnée avec ses deux frères par un véhicule ben de la société indienne Fortune Construction, transportant des caillasses. L'accident est lieu au niveau de l'arrêt Chambre-Fouette sur la route Bypass, non loin de la maison communale de Mongafula. Le chauffeur du gros véhicule avait perdu le contrôle du volant et avait fini sa course dans un dépôt loin de la chaussée où les trois enfants revenant d'école s'étaient abrités de la pluie. La fille est décédée sur le coup et ses frères fracturés sont jusqu'à présent internés à l'hôpital Moncolé. Le père de ses enfants, Moïse Tchiefou, fustige l'attitude de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kalamu, qui, dit-il, couvre la compagnie indienne qui refuse de supporter les frais funéraires et d'assurer la prise en charge des soins de ceux qui sont à l'hôpital. Moïse Tchiefou sollicite l'intervention du ministre de la Justice pour des funérailles dignes de sa fille et la prise en charge médicale des survivants. Sans SOS au micro d'Innocent Linga.
je me vois abandonné à mon propre sort. Ma fille est à la morgue, ça fait maintenant un mois. Une fille qu'on m'a arrachée à la fleur d'âge, à 8 ans. Le véhicule des Indiens qui les a éclaboussés a été libéré notamment par le parquet de Kalamu. Et les deux qui sont à l'hôpital, ils sont abandonnés toujours à mon propre sort. Et ces Indiens-là sont en train de circuler librement. Ils ne sont pas inquiétés. Je ne veux pas qu'ils puissent venir me donner leur argent. Je n'en ai pas besoin. Je veux qu'ils puissent eux-mêmes chercher un endroit où ils peuvent bien enterrer ma fille, afin que je puisse toujours leur rendre hommage. Si je veux quand même me souvenir d'elle, que j'aille quand même voir l'endroit où ils l'ont enterrée. C'est pourquoi je demande que le ministre de la Justice puisse s'impliquer dans ce dossier pour que ma fille soit enterrée avec honneur, puisque vraiment je suis déçu par la justice de notre pays. Le procureur en présence des Indiens qui me propose $300 pour me dire que ces gens sont assurés, ils ne peuvent rien faire. Il faut aller à la SONAS. Comment est-ce que je peux aller à la SONAS pendant que la SONAS nous dit qu'elles doivent prendre le premier soin et enterrer les morts s'il y en a?
Interrogé par Radio Kapi, le procureur de Kalamu incriminé reconnaît avoir libéré ce véhicule puisqu'assuré. M. Kipoulou précise toutefois que le chauffeur meurtrier est toujours en détention. Le procureur dit avoir demandé à la famille victime de s'entendre avec la société civilement responsable. Il ajoute que pour l'instant, ce dossier a été communiqué au parquet général puis la cour d'appel de la Gombe.
Actualité Afrique Monde.
La crise sociopolitique se poursuit en Guinée. Hier, des manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers de Conakry où l'opposition avait appelé une journée ville morte pour contester notamment les résultats des élections locales du 4 février. Côté social, les enseignants sont à leur cinquième semaine de grève et réclament un réajustement du salaire. La plateforme japonaise d'échange de crypto-monnaies CoinCheck a annoncé aujourd'hui avoir remboursé ses clients à hauteur de plus de 350 millions d'euros, plus d'un mois après avoir été victime d'un piratage massif. Le 26 janvier, en l'espace d'une nuit, CoinCheck avait vu s'envoler des actifs en crypto-monnaie NEM équivalent à 442 millions d'euros. Il s'agit à ce jour du vol le plus important dans l'histoire de devises virtuelles après celui subi par la plateforme Nippon de Bitcoin MT Gox en 2014.